IDFM Radio, le média valdoisien.
Merci d'accueillir une nouvelle fois sur IDFM Radio Morgane Moncomble. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la sortie d'un nouveau roman qui est sorti début mars, qui s'appelle La Révolte de la Reine, chez Hugo Roman. Et c'est la toute première fois où tu t'attaques un petit peu à l'histoire de France.
Hein. C'est ça, ouais.
On parle de Marie-Antoinette, un petit peu, on parle de la Révolution. Ça se passe avant 1789, on démarre en 1787.
88.
Pardon. Donc, il y a quand même une belle histoire d'amour entre une reine et son roi. En tout cas, c'est une aventure de plus de 500 pages que vous allez découvrir. Et c'est surtout une trilogie. Hein. Le premier tome donc est disponible. Le second sera disponible plutôt à la rentrée. Et le troisième, début 2027,
oui,
a priori.
C'est ça.
Le deuxième tome est déjà écrit. Et il y a un sous-titre, hein, Inheritance. Hein.
C'est ça, exactement.
Qui veut dire héritage, en fait.
Exactement. Hein.
Pourquoi tu as choisi, du coup, le mot anglais et pas le mot en français?
Alors, c'est très simple. Je trouvais que c'était plus joli en anglais. Pour le coup, je tiens à avoir des titres de chaque roman en français, mais sur les noms de saga, comme pour Seasons, par exemple, c'était plus facile et plus pratique aussi d'avoir un nom en anglais. Et puis, j'aime la sonorité du mot et ça veut vraiment parler de, voilà, d'héritage, de descendance et le concept de cette trilogie, c'est vraiment de parler d'une lignée de femmes, donc ça faisait sens.
C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es aussi édité dans énormément de pays. Hein.
Oui.
Donc, tous tes romans sont sortis entre 2017 jusqu'à aujourd'hui, ou même avant.
Oui, exactement, 2017.
Non, c'était 2017, hein, c'est bien ça. Et puis, au fur et à mesure des années, bah, tu as réussi à faire ta place. Aujourd'hui, tu es contente, t'es heureuse, tu as énormément de lecteurs, de lectrices qui te suivent. Tu seras d'ailleurs au Salon du Livre. Les dates, c'est vers le 18 avril,
ouais, 17-18, oui.
19 avril.
C'est ça.
Où là, tu seras en dédicace pour La Révolte de la Reine.
Oui,
entre autres.
Entre autres.
Mais on pourra aussi redécouvrir éventuellement tes quatre autres ouvrages d'avant. Tu l'as dit, hein, oui. C'est Seasons 1, 2, 3, 4.
Exactement.
Pas 4, hein. Les quatre saisons, automne, été, hiver, printemps.
Voilà.
C'était entre 2023 et 2024. Et puis une grande pause, hein, entre 2024 et 2025,
oui.
Où tu décides de partir au Japon.
Oui,
pour te ressourcer un peu.
Exactement. J'ai vraiment voyagé à travers l'Asie, donc le Japon, la Corée, la Malaisie, Singapour. J'ai essayé un peu de bouger et de vraiment me ressourcer et prendre le temps d'écrire cette trilogie, donc ça m'a fait beaucoup de bien.
Ah oui, c'était une année, mais aussi en même temps, tu en as profité pour écrire.
Oui, toujours.
C'est ta
c'était
passion.
C'était pas de vacances.
Donc, tu peux pas lâcher le crayon.
Non, jamais.
Ou le téléphone portable, je sais pas de quel.
Surtout l'ordinateur.
Ou l'ordinateur. Tu écris principalement sur l'ordi.
Oui, principalement sur l'ordinateur. C'est plus pratique, c'est plus simple. Parfois sur mon téléphone quand je suis en train de bouger et que j'ai pas forcément mon ordinateur.
Tu souffles des idées au téléphone.
Oui, toujours. C'est pour ça que mon pire cauchemar, ce serait qu'on me vole mon téléphone.
Oh là là.
Oui.
Du coup, toujours un petit peu sur le Val d'Oise aussi.
Oui. Ouais, depuis mon retour, effectivement, toujours dans le Val d'Oise.
C'est comme ça qu'on t'a rencontré la première fois, en tout cas. Cette histoire, on va suivre une très très belle femme qui s'appelle Acacia. Donc, qui va devenir reine. J'ai l'impression qu'elle a pas trop envie.
Un peu malgré elle. Ouais.
Elle est un peu rebelle aussi. Bon, elle va quand même devoir tenir ce rôle, aider aussi le peuple. Elle est face à elle à un roi qui est un petit peu enquiquinant, qui est un petit peu imparfait. Mais bon, c'est comme ça,
c'est
aussi,
comme ça.
J'ai envie de dire. Elle va l'aimer parce qu'il y a beaucoup de lettres de correspondance aussi qu'on va découvrir tout au long de l'ouvrage. Lui va partir à un moment donné à la guerre, au front, ils vont se retrouver, etc. C'est vrai que c'est un roi qui est détesté aussi, donc pas toujours simple.
Oui.
Finalement, tout repose sur les épaules d'Acacia.
C'est ça. C'était vraiment, l'idée, c'était aussi de parler de. C'est une trilogie qui est très féministe, donc je voulais vraiment parler de l'image de la femme au pouvoir. Acacia, c'est une femme qui n'a pas choisi, en fait. bah sa vie, tout lui a été imposé. Et en fait, elle dit bah non, j'ai envie d'être libre et je vais un peu vivre ma vie selon mes propres règles. Et donc du coup voilà, c'est une femme qui est très forte, très indépendante, qui a beaucoup confiance en elle et en même temps qui peut être aussi parfois très vulnérable.
Pourtant la femme elle est souvent en retrait. Mais là, du coup, elle va prendre tout ça pour être une femme forte, efficace,
bien sûr,
écouter les gens. Donc, tu le disais, c'est assez féministe. Il y aura ou il y a déjà trois figures féminines qui sont très présentes, justement, dans ce premier tome, où elles vont arriver au fur et à mesure des différents tomes.
Alors, c'est assez différent à ce niveau-là de Seasons, par exemple. J'essaie de pas trop en parler parce que je trouve que ça spoil un petit peu, ça gâche un peu les rebondissements et la fin surtout du premier tome. Mais effectivement, je parle d'une lignée de femmes, donc du coup, ça se suit quand même de livre à livre. Donc voilà, il faut les lire dans l'ordre, mais ouais, je peux pas trop en dire.
En tout cas, il y a différentes époques aussi.
Oui, c'est ça. C'est chaque tome un couple, chaque tome une époque, et surtout un siècle. Donc, dans le premier, donc on est voilà à Versailles lors de la Révolution française, très inspiré de Marie-Antoinette évidemment, surtout du film de Sofia Coppola que j'adore. Le deuxième tome, on se retrouve à Londres pendant la Régence, donc en 1812, et le troisième, c'est les années folles à New York, donc la Prohibition, etc.
Tu aimes le voyage, en tout cas. Oui. Tu vas nous faire encore voyager.
Toujours.
À travers ces différents tomes, il y a aussi un personnage, je crois, que tu affectionnes énormément, qui est celui de Gabrielle.
Ouais, j'avoue.
Tu peux nous dire pourquoi?
En fait, c'est assez surprenant parce que Gabrielle n'était pas censé prendre une telle place dans le roman. Et en fait, il s'est vraiment imposé à moi au fil de l'écriture. Il s'est dit, bah non, maintenant je vais prendre un peu possession de mon rôle. Et en fait, j'ai envie d'avoir un rôle secondaire important. Et c'est surtout cette relation avec Acacia qui est hyper précieuse, je trouve. Parce que, bah en fait, en étant reine, elle a confiance en personne. En fait, elle est entourée d'ennemis. Et Gabrielle, pour le coup, c'est vraiment l'une des seules personnes en qui elle peut avoir une confiance aveugle et qui la soutient du début à la fin de manière inconditionnelle.
Romance historique pour ce premier tome, pour cette première fois, l'histoire, ça t'a toujours passionnée ?
J'ai toujours été passionnée d'histoire, effectivement. J'ai eu certaines phases quand j'étais petite, des petites obsessions. Pendant un moment, j'étais fan d'Égypte ancienne. Enfin bref, voilà. Donc ça a toujours été un rêve d'écrire une romance historique, mais j'ai toujours été un peu intimidée, je pense, parce que forcément, ça demande beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de travail que de la romance contemporaine. Après, là, le but, c'était aussi d'avoir une romance historique très modernisée. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup de liberté avec l'histoire. C'est une sorte un peu de réinvention, de réécriture, un peu à la Bridgerton par exemple, avec un univers plus inclusif, plus féministe et plus divers aussi dans ses personnages et dans ses problématiques.
T'as beaucoup regardé du coup cette série, les chroniques de Bridgerton ou pas?
Oui, entre autres. C'est vrai que je regarde beaucoup de séries historiques. Il y a aussi The Great, par exemple, qui m'a beaucoup inspirée. À l'époque, j'adorais The Rain. Voilà, Outlander. Enfin, c'est que des séries que j'aime beaucoup.
Tu es aussi très méticuleuse, donc t'as fait appel aussi à une historienne.
Oui.
Pour pas te tromper sur certaines choses. Alors effectivement, tout n'est pas vrai, mais il y a des choses quand même qui sont prises de l'histoire de France ou autre. Et tu remercies notamment une certaine Stéphanie qui est historienne,
Ouais,
que tu as rencontrée comment en fait. C'est ta maison d'édition qui
c'est ça,
propose.
C'est ma maison d'édition exactement qui a fait appel à elle. Donc en fait, c'est une historienne et qui est spécialisée, en tout cas qui tient un blog sur Marie-Antoinette. Donc c'était vraiment parfait. Et pour le coup, voilà, on lui a dit tout de suite, c'est une romance historique, mais voilà, on a pris beaucoup de liberté. Le but, c'est pas une biographie de Marie-Antoinette. J'ai été très librement inspirée de son personnage et elle a tout de suite compris et c'était hyper intéressant d'avoir ses retours. Donc ça m'a beaucoup aidée.
Dans tous tes romans aussi, tu démarres avec une playlist musicale.
Oui.
Et cette playlist musicale, il suffit de flasher un QR code pour écouter des extraits des chansons que tu as sélectionnées. Mm-hmm. Tu as sélectionné donc des chansons plus d'aujourd'hui quand même, qui font référence à l'écriture de ce premier tome, La Révolte de la Reine.
Oui.
Donc tu vas chercher dans ton téléphone portable, tu vas chercher aussi sur des playlists des uns et des autres pour que ça colle parfaitement à l'ambiance, à l'univers de ce premier tome.
Oui, alors quand je commence à écrire, j'ai déjà en tête certaines musiques qui m'inspirent dès le début, ou alors ça va être un peu au fil de l'écriture. C'est une playlist que j'écoute pendant que j'écris, et c'est vrai que je fais toujours attention à ce que, soit en termes de mélodie, en termes d'ambiance, ou en termes de paroles, que ça parle et que ça fasse référence soit à l'histoire, soit à certains personnages, soit à la romance. Donc voilà, j'espère un peu, enfin j'essaye un peu de m'inspirer de ça, et je trouve que... Je sais pas.
Ça colle parfaitement.
Ouais, ouais, ouais.
En tout cas, tous les artistes que tu sélectionnes, tu les apprécies.
Oh, bien sûr.
On va écouter justement Alex Warren avec Ordinary sur IDFM Radio. Nous sommes toujours avec la romancière Morgane Moncomble.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Up in the clouds, I'm jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're in sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds, I'm jealous knowing we found hopeless.
IDFM Radio, nous sommes toujours aujourd'hui avec Morgane Moncomble. Merci d'être avec nous. On te suit depuis, on va dire, 2019, je crois,
ouais,
environ. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Je crois que je t'avais croisé ici, à Enghien, dans les rues. En tout cas, voilà, tu es valdoisienne. Tu es toujours, en tout cas, sur notre magnifique département. Et donc, depuis toutes ces années, tu édites des romans.
Oui.
Le premier, donc, c'était 2017. Et chaque année, en fait, à chaque fois, il y en a eu un.
Oui.
Sauf une période entre 2024 et 2025, tu es partie au Japon. Mais ça t'a permis, en tout cas, de te ressourcer et d'écrire La Révolte de la Reine, le tome 1, qui vient de sortir. Là, c'était le 4 mars, plus exactement.
Oui.
Et tu seras en séance de dédicace, non pas à la Porte de Versailles. On s'est un peu planté, parce que d'habitude, pendant des années, ça a été le Salon du Livre de Paris, la Porte de Versailles. Et maintenant, ça s'appelle le Festival du Livre de Paris. Et c'est... Au Grand Palais. Voilà, merci. Les 17, 18 et 19 avril. Donc, tu seras là sur deux jours, vendredi et samedi, pour dédicacer ton roman. Hein.
Oui, c'est ça, exactement.
Le Grand Palais, donc ce sera une première pour toi, Morgane ?
Alors, le Grand Palais, oui. J'ai dédicacé une seule fois, du coup, au Salon du Livre de Paris autrefois en 2019. Donc j'ai hâte de revenir.
Moi, j'ai été faire de la patinoire notamment.
Ah ouais, palais. Très sympa.
Il y a une gigantesque patinoire et c'est très très chouette en tout cas de patiner dans ce merveilleux palais. Revenons donc à ce roman. Donc tu t'es inspiré un petit peu de l'histoire, on l'a dit, Marie-Antoinette, mais aussi c'est romancé à ta sauce. Donc il y a vraiment quelqu'un, une historienne, je le reprécise, Stéphanie, qui a travaillé aussi avec toi, qui a lu, qui a relu, qui t'a donné aussi des conseils pour mener à bien cet ouvrage, La Révolte de la Reine.
Oui, bien sûr. Ouais, c'était très précieux. Ouais.
Ça a duré combien de temps, du coup, aussi, ce travail avec elle?
Ça a été assez rapide. Je dirais que ça a duré plusieurs mois avec toutes les phases de correction, de réécriture, etc. Mais les retours ont été assez rapides.
Comment a été menée aussi la construction de ce roman? Il y a des chapitres, c'est partagé en parties.
Oui.
Au début, il y a un coup le roi, un coup la reine. Mm-hmm. J'ai vu par exemple, alors je sais pas si c'est le chapitre 5, si c'est ça, je sais pas si t'appelles ça le chapitre 5 ou pas, mais le mot la princesse est barré et en dessous c'est écrit la reine. Parce que là, elle se sent plus reine que princesse à ce moment-là de l'ouvrage ou pas?
Alors effectivement, donc en début de chapitre, comme j'ai des points de vue alternés, donc parfois on est du point de vue d'Acacia, parfois d'Alexandre. Je voulais pas qu'il y ait leur prénom sur les entêtes de chapitre. Du coup, voilà, on commence par la princesse parce qu'au début du roman, elle est encore princesse. Et à partir du moment où elle se marie avec Alexandre et devient reine, du coup, je barre le princesse parce qu'elle devient reine. Voilà, c'était, je sais pas, ça m'a plu comme construction.
Donc la reine Acacia et le roi Alexandre qu'on va suivre tout au long de cette histoire. Au début aussi, il y a un arbre généalogique qui présente un petit peu la lignée de la reine. Il y a beaucoup moins de monde du côté du roi Alexandre.
Oui, ça c'est sûr. Effectivement, on est un peu... c'est un peu bondé du côté d'Acacia.
Des illustrations aussi, pas trop, mais quelques-unes. Elles sont très très belles. Et puis une couverture magnifique pour ce tome 1 de La Révolte de la Reine. On a l'impression d'avoir affaire aux grilles du château de Versailles, en fait.
Hein. Ouais, je voulais vraiment une couverture qui soit différente, même un objet livre qui soit différent des précédents. Où là, on voulait un peu avoir l'impression que c'était un vieux livre. Donc même sur le dos, vraiment, tout est très très joli. Et puis on a dû faire adorer pour que ça brille, évidemment, parce qu'on est à Versailles. Et puis les illustrations, c'est vrai qu'on a sur les rabats, donc les illustrations des deux personnages principaux. Et à l'intérieur, une illustration d'une scène que j'apprécie beaucoup.
Donc c'est Inheritance aussi.
Ouais, hein. Inheritance.
Le
ouais.
Inheritance. Voilà, merci. Avec donc le sous-titre de ce tome 1, pour le tome 2, il y aura un autre sous-titre.
C'est le même sous-titre sur la saga, mais les titres, effectivement, ce sera plus La Révolte de la Reine, du coup.
C'est les titres qui vont changer. Il y a aussi pas mal de choses qui m'ont interpellé, avec notamment Willow Gwinnett.
Ouais.
C'est qui? C'est toi? C'est un personnage que tu as inventé qui explique, qui a un propos au début de l'ouvrage et à la fin, on peut le dire, ça.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc voilà, et c'est daté de mars 2026.
Oui, c'est ça.
C'est qui cette figure,
qui
en fait?
Qui est cette personne?
Qui est cette personne?
Alors, Willow, qui a aussi un prénom de fleur, justement. En fait, l'idée, comme je le disais, c'était d'écrire sur une lignée de femmes qui auront marqué l'histoire d'une façon ou d'une autre. Et Willow, c'est un peu la dernière descendante de cette lignée. Et du coup, qui un peu à notre époque, en 2026, retrouve après la mort de sa mère, voilà, des sortes de trésors de ses ancêtres, et qui va découvrir certaines choses de leur histoire, et qui va ensuite écrire des articles pour parler de leur histoire et un peu révéler certains secrets. Voilà. Donc celle d'Acacia.
D'accord, très bien. On comprend un petit peu mieux aussi. C'est vrai que ça peut être un peu déroutant.
Bien sûr.
On sait pas trop, mm-hmm. mais tu aimes en tout cas le mystère.
Bien sûr, et puis c'est des choses qu'on va découvrir aussi au fil des tomes.
Donc il y a combien de personnages à travers La Révolte de la Reine? Tu les as comptés?
Oula, non. non, je les ai pas comptés. Non, je pense qu'on est peut-être à 5-6 personnages importants en tout cas.
Et de temps en temps, il y en a un ou deux qui apparaissent.
Ouais.
et qui reviendra pas dans un autre tome. On ne sait pas, peut-être. En tout cas, le deuxième tome est déjà écrit, composé aussi.
Oui, je suis en pleine correction.
Tu fais vite en règle générale aussi quand tu décides de faire une trilogie, d'aller vraiment jusqu'au bout.
Oui, j'essaye. Comme je suis partie du coup en Asie, j'ai essayé d'écrire le maximum possible avant de revenir pour prendre de l'avance. Donc j'avais écrit mes deux premiers tomes. En général, je mets à peu près 2 mois et demi pour écrire le premier jet, et puis ensuite je repasse beaucoup dessus. Et puis il me manque plus que le tome 3 à écrire.
Il y a un peu de violence quand même, hein. On est d'accord.
Un petit peu, oui.
Il y a de la séduction aussi.
Il y a beaucoup de séduction, donc c'est très sensuel, et en même temps il y a aussi beaucoup de violence, que ce soit graphique ou même dans les mots.
Décapitation.
Ouais. C'est pour ça qu'au début du roman j'ai vraiment fait une liste.
Ça fait partie de toute façon de cette période.
Bien sûr, je pouvais pas passer à côté. Mais du coup c'est pour ça qu'on a une liste aussi de trigger warning au début pour parler des sujets qui vont être abordés, et comme ça si certaines personnes ont certaines sensibilités, elles savent dans quoi elles s'embarquent.
C'est à partir de quel âge? Tu sais
c'est quel un peu
âge,
la question.
Tu sais quel âge ont tes lectrices. Après, le roman, il est libre d'accès. Je pense que le libraire ne va pas l'interdire.
C'est un peu difficile parce que moi, je me considère pas comme... En fait, je peux pas dire aux gens ce qu'ils sont censés lire ou ne pas lire. Je peux pas contrôler ça. Je vais pas interdire aux gens de lire mon livre. Je sais que mes lectrices sont de plus en plus jeunes. J'ai eu des lectrices qui avaient 11-12 ans. Personnellement, je trouve que c'est trop jeune. Quand on me pose la question, je le conseille plutôt à 16-18 ans quand même, minimum.
Tu comprends en tout cas qu'il y a ce jeune public de 11 ans qui s'intéresse à la new romance, qui...
Je trouve que 11 ans, c'est quand même très très jeune.
Oui, c'est vrai.
Mais à partir de 13 ans, 14 ans, je peux comprendre effectivement. Et bon, on a eu beaucoup cette discussion avec certaines lectrices, mais je préfère quand même qu'elles lisent mes romans que regarder certaines autres choses, notamment en termes de sexualité, dans le sens où ce sera toujours dans le respect, ce sera toujours dans le consentement, et donc c'est quand même un modèle assez bon entre guillemets, et très green flag. Donc
on a parlé beaucoup du coup d'Acacia, donc qui est très belle, qui est magnifique, hein, qui est une femme rebelle qui ne se laisse pas faire. Et cet homme Alexandre, du coup tu t'es inspiré de qui pour le rendre comme ça détestable?
Deux personnes en fait. Quand j'ai commencé à écrire, je connaissais pas encore très bien la personnalité d'Alexandre, et en fait il s'est vraiment aussi imposé, enfin il s'est construit un peu tout seul. Je voulais vraiment un roi qui souffre, un roi malade, avec un peu un syndrome de du survivant. Donc en fait voilà, lui non plus n'aurait pas dû devenir roi. Son frère qui était l'héritier est décédé, son père aussi, et du coup il se retrouve sur le trône alors qu'il l'a jamais vraiment décidé. C'est quelqu'un qui aime, justement un peu comme Acacia, qui aurait aimé plutôt être libre, et en fait il est détesté de tous ses sujets parce qu'il est très je m'en foutiste, et surtout il se considère comme condamné parce qu'il souffre d'une maladie incurable. Et en fait quand Acacia arrive, il est totalement contre sa venue à Versailles, et voilà, donc c'est pour ça que c'est très tendu entre les deux au début.
En tout cas, c'est une belle aventure, une belle histoire en tout cas. La Révolte de la Reine, c'est sorti le 4 mars.
Oui.
C'est toujours la même maison d'édition, Hugo Roman, hein, depuis tes débuts. En séance de dédicace, donc le vendredi 17 avril et samedi 18 avril au Grand Palais, dans le cadre du Festival du Livre de Paris. Le tome 2 sortira a priori à la rentrée.
Oui.
Et puis encore plein d'autres belles aventures à venir.
Toujours.
T'as toujours plein d'idées en tête.
Bien sûr, c'est pas ce qui manque.
Alors n'oubliez pas aussi, il y a un QR code hein, à la fin du roman.
Oui.
Je sais plus si tu l'avais fait sur les précédents,
non.
La plupart, non?
Non, c'est nouveau, ouais.
Donc on flash le QR code à la fin du roman. On a une petite interview de toi.
Oui.
On a la playlist, comme je le disais.
Ouais.
Hein, sur chaque roman, il y a toujours au début ta playlist, 15 morceaux, je crois.
Oui,
hein.
À peu près, ouais.
Et il y a même un teaser, une bande-annonce pour présenter la sortie de ce roman disponible depuis le 4 mars. Et puis d'autres contenus. Hein.
Oui.
Ça en donne encore plus, et ça donne du visuel, de l'image, et ça bouge.
Exactement.
Bon, le roman, il bouge, hein, bien sûr, mais plutôt dans notre tête.
Oui, c'est ça.
Quand on le
lit. Visuel.
Ouais. Merci encore, et on va se quitter justement avec un autre morceau de ta playlist, Ava Max, avec Le Roi et la Reine.
Parfait.
Kings and Queens.
Magnifique.
À bientôt sur IDFM Radio. Morgane Moncon.
If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all.